Heureux d'être avec vous en cette matinée. Bien sûr, je salue les frères et sœurs que je connais, ceux que je ne connais pas, et les visiteurs au milieu de nous. Que Dieu les bénisse, qu'ils se sentent bien dans la maison de Dieu. Et parfois, il est bon de se rappeler, mes frères et sœurs, que ce lieu dans lequel nous tenons est un lieu saint. On vient parfois, et je ne pense pas peut-être que le mot soit juste, mais je dirais par amour, mais aussi peut-être un peu par habitude. On ne doit venir jamais dans la maison de Dieu par habitude, mais par amour. Tout en sachant que le lieu dans lequel nous allons entrer est un lieu saint. Quand on est dans la communion avec Dieu, quand on rentre en communion avec Dieu, on se trouve dans un lieu saint. Souvenez-vous de Moïse. Il est monté sur la montagne, il y a eu le buisson ardent, et Dieu s'adressa à Moïse en disant « Ôte les chaussures de tes pieds, car ce lieu dans lequel tu te tiens est saint. » Et ce matin, nous avons partagé des moments dans un lieu saint, parce que Dieu y est. Et je vous fais rappeler à votre esprit que nous sommes placés devant un Père qui est saint, mais comme le disent les anges dans le ciel, il est trois fois saint. C'est-à-dire, il est plus que saint, c'est la sainteté même. Et quand nous rentrons dans ce lieu, c'est simplement une petite analyse que je partage avec vous, eh bien, nous devons entrer dans ce lieu avec beaucoup de respect, parce que Dieu y est. Avec beaucoup d'amour, c'est sûr, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Tout en sachant que Dieu est là pour nous parler d'une manière ou d'une autre et qu'il veut faire nous bien à chacun d'entre nous. Mais il faut considérer que nous sommes enfants de Dieu avec un héritage qui nous a été donné, qui est l'espérance de la vie éternelle. Mais nous devons nous souvenir que ce lieu-là, c'est un lieu dans lequel Dieu se tient et je lui dois tout respect. Et quand je respecte Dieu, alors je respecte mes frères et sœurs, parce qu'ils sont enfants de Dieu comme moi. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu, et que Dieu m'aide à vous apporter la pensée qu'il a placée sur mon cœur. Nous allons aborder peut-être un peu le thème de la prière, et le titre que j'ai donné à cette pensée que je vais partager avec vous est simple, c'est Dieu a placé pour tous une fenêtre de bénédiction dans le ciel. Alléluia. Mais la bénédiction, il faut, permettez-moi aussi ce terme, il faut aller la chercher. Et on va lire deux textes, ou deux versets, ou quelques versets, pour expliquer et étayer cette pensée ensemble. Nous lirons plusieurs textes aussi, si nous avons le temps ce matin. Mais je vous invite de suite à aller dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 7. Deuxième livre des Rois, chapitre 7. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le deuxième livre des Rois se trouve dans l'Ancien Testament. Et si ça peut vous faciliter, ça se trouve dans la Bible, entre les deux couvertures. Voilà, vous avez trouvé. Je lis. Élisée, le prophète, dit au peuple de Samarie. Samarie était en ce moment-là assiégée par son ennemi. Ils avaient donc ses ennemis syriens avec leur roi, avait assiégé Samarie, et voilà qu'Élisée dit aux gens de Samarie qui se trouvent dans une situation très compliquée puisqu'il n'y avait plus rien à manger, c'était vraiment la débâcle à tous côtés. Il dira ceci, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura un séa de fleurs de farine pour un sicle et 2 séas d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle ? Élisée répliqua, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Je vous demande d'aller au verset 19 de ce même texte. Alors l'écuyer avait répondu à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Alors Élisée avait répliqué, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » C'est en effet ce qui lui arriva. Le peuple le piétina à la porte de Samarie, bien sûr, et il mourut. On pourrait dire « c'est une triste histoire ». Mais je voudrais quand même souligner que si la fin est triste pour cet écuyer, c'est qu'il n'a pas saisi la grâce, le secours que Dieu apporta à son peuple. Le peuple de Samarie, je l'ai souligné, était dans des difficultés, assiégé. La mort était dans la ville. Mais Dieu, par la parole de son prophète, va dire « Demain, vous aurez de quoi manger. » Et quand on lit le texte, je vous invite à le relire à la maison, on s'aperçoit effectivement que Dieu va intervenir et qu'ils vont avoir de la nourriture en abondance parce que Dieu va agir d'une manière miraculeuse en faisant fuir les Syriens parce qu'il fera entendre des bruits, etc., dans les tentes des Syriens qui vont tout abandonner, croyant que de l'aide allait arriver pour sortir les gens de Samarie de leurs difficultés. Ils ont tout abandonné. Et quand ils sont sortis, les gens de Samarie, ils ont eu de quoi se nourrir. Je voudrais vous rappeler, mais vous le savez déjà, que Dieu est bon. Et que Dieu, quand il nous prend pour ses enfants, il ne nous laisse pas et ne nous abandonne pas, mais il prend soin des siens. Alléluia. Il est bon aussi de se rappeler et de dire que Dieu n'a jamais dit que lorsqu'on se donne à lui, lorsqu'on donne sa vie à lui, lorsqu'on s'engage avec lui dans une vie nouvelle, il ne nous a jamais dit, en tout cas moi je ne l'ai jamais lu, il ne nous a jamais dit que nous n'aurions pas de tribulation, que nous n'aurions pas de combat, de lutte, de difficulté. Mais il nous l'a dit au travers de la personne même de Jésus que nous aimons et connaissons. Je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Ce qui veut dire que dans les mains de Dieu, il y a la réponse à tous nos problèmes. Et comme il est écrit, et c'est vrai, parce que vous l'avez peut-être vécu, mais la parole de Dieu nous montre pas mal d'exemples, et nous avons des témoignages. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu est capable d'ouvrir des fenêtres au ciel. En tout cas, il en a ouvert une, c'est sûr. Et celle qui est au ciel, ouverte constamment, elle a un nom, c'est le nom de Jésus. Puisque la parole de Dieu nous dit et nous rappelle, et c'est Jésus qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. En fait, nous avons par habitude, entre guillemets ce mot habitude, parce que la Bible nous l'enseigne, de prier. Et nous avons raison de prier. Puisque là encore, Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. La parole de Dieu nous incite à avoir une vie de prière et de marcher dans cette vie de prière, d'avoir à tout moment une relation avec Dieu dans la prière, une relation qui se fait au nom de Jésus-Christ. Car c'est ce nom-là qui nous permet d'accéder à la présence de Dieu, de rencontrer Dieu par la prière. Alléluia. Mais quand je regarde le texte que nous avons lu, Dieu a fait une promesse. Ce n'est pas Élisée qui parle, Vous avez remarqué dans le texte que Élisée a pris la parole parce que Dieu lui a dit de prendre la parole et d'annoncer sa promesse. Alléluia. Moi, je dis alléluia parce que je pense au miracle qui a été fait. Élisée n'a fait que transmettre la parole de Dieu. Et parmi les gens qui l'entouraient, il y avait cet écuyer, si vous voulez, ce soldat, cette ordonnance, comme on appelle aujourd'hui, qui est une aide pour l'autorité. Et là, l'autorité, c'est le roi qui était là et qui a entendu et qui a écouté ces paroles. Et l'écuyer a dit, si Dieu faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Élisée l'a entendu aussi. Hein. Et c'est là qu'il répondit, Élisée, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et ce qui a été dit par Élisée s'est accompli puisque l'écuyer est mort. Mais vous avez remarqué qu'il est mort à la porte de Samarie. Et combien cette parole d'Élisée est importante. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, tu le verras. Et ce jour, le lendemain, ce soldat était de garde à la porte. Les portes furent ouvertes. Et qu'est-ce qu'il a vu devant lui? Sinon, les tentes des Syriens qui étaient vides, avec plein de provisions. Il a vu la foule qui avait faim, la bousculer, parce qu'une foule affamée, ça bouscule, a avancé avec force et puissance, bousculé, écrasé, il a vu, et il n'a pas goûté. Or, ça me fait penser à une parole du Seigneur Jésus que vous connaissez tous, qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 11. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Cet homme a perdu la bénédiction parce qu'il n'a pas cru à la promesse de Dieu dite par Élisée. Il s'en est même moqué en disant « si Dieu faisait des fenêtres au ciel ». Mais Dieu, lui, quand il parle, il agit. Je suis heureux de voir que vous êtes d'accord avec moi. Je reprends ma petite phrase. Vous avez tous dit Amen. Eh oui, oui. Dieu parle et il agit. Quand Dieu parle, quand Dieu promet, il accomplit toujours sa parole. Pas toujours dans le temps où nous voudrions. Oui ou non? Parce que parfois, ça met longtemps pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Je ne voudrais pas vous décourager ce matin, mais dans la parole de Dieu, et peut-être d'autres ici pourraient en témoigner pour un temps peut-être plus ou moins long, mais il y a des promesses qui ont été données et qui se sont accomplies 12 ans après. Oui, non? Comme pour la libération du peuple d'Israël, il est quand même resté, avant d'aller dans le pays promis, 400 ans avant d'entendre que la promesse s'accomplisse. Alors, 400 ans, je ne sais pas si on va les faire. Hein? Mais ce que je sais, c'est que Dieu nous a donné à tous des promesses. Oui, non? La plus belle des promesses, c'est la vie éternelle. Et ça, on ne sait pas quand on y rentrera. Parce qu'on part à divers âges. C'est sûr qu'on n'ira pas jusqu'à 400 ans. Mais le plus longtemps possible, si Dieu nous prête vie. Mais sans cette vie qu'il nous prête, il faut que nous, enfants de Dieu, nous croyions à l'autorité du nom de Jésus, à la véracité de la parole de Dieu, à croire de tout notre cœur que Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses, que ce ne sont pas des vaines paroles, mais que ce sont des paroles de vérité, et à croire que Dieu accomplira toujours sa parole. C'est pour cela que nous restons confiants dans la parole de Dieu. La fenêtre. Je bénis le Seigneur parce que, au travers de ses écrits et de sa parole, quand on la médite, on se fait beaucoup de bien, on veut partager. Alors, je me suis rappelé un autre texte biblique que je cite avant d'aller un peu plus loin, mais qui se rapporte à ce que nous venons de dire. Dieu, dans un autre temps et dans une autre circonstance, a ouvert aussi une fenêtre, ou je dirais, a préconisé de faire une fenêtre. Ah, si je vous dis qui ? Est-ce que vous savez à qui Dieu a dit de faire une fenêtre? À Noé.
à Noé. Et quand on connaît l'histoire de Noé, on l'a dit, on la répète. Dieu a trouvé Noé juste. Rappelez le texte, hein, c'est dans Genèse. Hein. Et il va lui dire, j'ai regardé le monde que j'ai créé, cette humanité qui se tourne toujours vers la méchanceté. Alors toi, Noé, je t'ai choisi parce que tu es un homme juste et droit. Alors, écoute-moi bien, tu vas te faire une arche. Une arche, c'est-à-dire un bateau, pour ceux qui cherchent un peu de quoi c'est l'arche. C'est un gros, gros bateau que Dieu va demander. Alors, bien sûr, comme ça, pour nous, c'est anodin. On se dit, mais ouais, une arche. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que du temps de Noé, construire une arche, c'était fou, permettez-moi de dire, c'était dingue. Quand Noé a commencé son arche avec ses fils, les gens ont dû se moquer très certainement de Noé. On lui dit, qu'est-ce que tu fais, Noé? Je fais un arche. Quoi? Un bateau? Pourquoi faire? Ben, parce qu'il va tomber de la pluie sur la terre. Comment ça de la pluie? Oui, Dieu a dit, il m'a dit de faire une arche parce qu'il va faire tomber le déluge sur la terre. Mais tu es fou! Bien sûr, il faut savoir que dans l'histoire du temps de Noé, il n'était pas tombé, depuis la création, une goutte douce de pluie sur la terre. La nature était arrosée par la rosée du matin. Vous voyez ? Et ainsi, elle grandissait, elle produisait de son fruit. Bonnard, hein ? Pas de pluie. Mais pensez donc les gens. Tu es fou ? Tu as perdu la tête ? Mais Noé ne s'est pas arrêté. Il s'est attaché à la promesse de Dieu. Ça a duré sa construction environ 100 ans. Et Dieu, dans sa sagesse, a dit à Noé, fais-toi une arche. Mais écoute bien, il lui donne toutes les longueurs pour faire la hauteur, la longueur, la largeur. C'était un bateau immense. Et il lui dit, tu te feras une porte en bas et une fenêtre en haut. Hein? Vous allez me dire, c'est compréhensible. Mais vous savez, quand on continue à lire le texte, Noé et sa famille, quand ce fut achevé, que les animaux par couple rentrèrent dans l'arche de Noé, eh bien, il nous est dit que l'Éternel ferma la porte. Et alors là, on réfléchit deux secondes, l'Éternel ferme la porte et il ne ferme pas la fenêtre. Vous l'avez remarqué, ça, en lisant le texte? C'est sûr que vous l'avez remarqué? Eh bien, il n'a pas fermé, il a fermé la porte. Parce qu'au cas, pardon, au cas où quelqu'un, dans le groupe familial, d'un seul coup, ait le désir d'ouvrir la porte, ça aurait été l'inondation du bateau et la perte de tout. Non, c'est fait, Dieu ferma la porte. Ce qui veut dire aussi que les gens de l'extérieur ne pouvaient pas rentrer dans le plan de salut de Dieu. Or, Dieu nous a donné un plan de salut. Et nous avons passé la porte. C'est la porte qui s'appelle aussi Jésus. Alléluia. C'est formidable. Dieu ferme la porte, plus personne peut sortir, plus personne peut entrer. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Si ma mémoire ne me trompe pas, Noé et sa famille sont restés environ 100 jours dans le bateau. Et puis un jour, et là, ça c'est formidable de voir, vous relirez aussi les textes hein, si vous voulez. Noé va ouvrir la fenêtre. J'aime bien ça. Je répète, Noé va ouvrir la fenêtre. Il n'est pas écrit « Dieu va ouvrir la fenêtre ». Il est écrit « Noé va ouvrir la fenêtre ». Et quand il ouvre la fenêtre, il s'aperçoit d'une chose, c'est que Dieu s'est souvenu de lui et de sa famille. Et il s'aperçoit que l'eau a diminué. Et c'est là qu'il va envoyer les oiseaux, jusqu'à ce que la colombe revienne, avec un brin d'olivier dans sa bouche, enfin plutôt dans son bec, et qui est là la preuve que Dieu est intervenu et que maintenant, il peut sortir en toute sécurité. Dieu se souvint de sa promesse. Parce que c'est écrit, Dieu se souvint de Noé et de toute sa famille. Alléluia. Noé a su que l'eau s'était retirée parce qu'il a ouvert la fenêtre, parce qu'il a vu que les eaux étaient basses, et il a contemplé aussi tout ce qu'il y avait de merveilleux devant lui, c'est-à-dire le ciel bleu, tout était beau, Dieu était intervenu en sa faveur. Nous sommes tous les uns et les autres passés par la porte qui s'appelle Jésus. Mais Jésus, je le rappelle, je l'ai dit un petit peu en introduction, nous a enseigné de veiller et de prier en tout temps. En tout temps. Et je dirais peut-être aujourd'hui, plus que jamais. Nous devons nous tenir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est bon. Je vous ai dit 100 jours, je crois. Je ne sais pas si je me suis trompé, parce que là, je suis en train de voir un verset que j'ai noté. Dans Genèse chapitre 8, verset 6, j'espère qu'il est bon. « Et il arriva au bout de 40 jours que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. » Oui, le Seigneur est celui qui prend soin de ses enfants. Dans Luc chapitre 21, verset 36, je vous lis ça dans Parole vivante. Écoutez bien ce qu'il est dit au sujet de l'enseignement. « Donc en éveil, et priez sans vous relâcher pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. » Ainsi, là, dans l'enseignement du Seigneur, nous avons deux points importants qui sont pleins d'actualité aujourd'hui. La première, c'est qu'il nous dit il faut prier pour échapper à tous ces malheurs futurs. Je ne suis pas là pour détailler les choses de la vie, mais les choses de la vie nous démontrent aujourd'hui que nous sommes rentrés dans un monde de violence, d'iniquité, d'immoralité, de perservité, de perte de foi, de moquerie de Dieu et de Jésus-Christ. On combat la religion. Les choses ne s'arrangeront pas. Parce qu'il est écrit, et c'est Jésus qui le dit, il faut que ces choses arrivent. Par contre, d'un autre côté, le Seigneur nous parle, il nous dit, veillez et priez afin d'échapper à ces temps futurs. C'est-à-dire afin de garder la foi et d'être ferme contre vent et marée, de ne pas vous laisser détourner de la vérité par les faux prophètes et les faux docteurs qui vont surgir et ils vont essayer de détourner la foi des chrétiens véritables. Soyons de ceux qui tiennent ferme dans leur conviction de chrétiens et qui ne se laisseront pas détourner loin de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et toute parole de Dieu s'accompliront, parce qu'elle est la vérité. Et nous devons prier afin que notre foi ne défaille point, mais afin que dans ces temps, Dieu en sauve d'autres. Mais en fidèle à Dieu et en restant fidèle à Dieu, nous rencontrerons une opposition terrible si Dieu n'achève pas ce jour. Il est même écrit que la foi de plusieurs se refroidira et même personne ne serait sauvé. Lisez ça dans les épîtres. Donc notre désir, ça doit être un désir, c'est d'avoir une vie de prière. D'autant plus que le deuxième point qui est souligné, c'est « afin de paraître debout quand le Fils de l'homme apparaîtra ». Alors, debout. Ça ne veut pas dire qu'il faut être debout physiquement. Comprenons bien les pensées bibliques. Vous vous rendez compte s'il fallait être debout physiquement, mais on ne tiendrait pas 72 heures. 24 heures debout, rester des heures sans dormir, alors que Dieu nous a dit qu'il est bon de prendre de temps en temps du repos. Vous voyez ? Donc ce n'est pas physiquement. C'est être debout dans la foi, tenir fort, être ferme dans la foi, être fidèle jusqu'au bout. Contre tout et malgré tout. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à vivre cela. Que chacun ait, d'une manière particulière et imagée, une fenêtre de prière. La porte, c'est Jésus. C'est le salut. La prière, c'est Jésus. Priez au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus que Dieu envoie ses bénédictions. Alléluia. Et l'important, c'est de ne pas faire comme l'écuyer. L'important, c'est de croire que tout ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Par contre, laissez-moi vous dire entre parenthèses, quand on dit que Dieu va accomplir toutes ses promesses, je voudrais quand même placer sur votre esprit, en votre cœur, et je pense que vous me le permettrez, vous me pardonnerez, mais c'est une vérité, les promesses de Dieu, elles sont bonnes pour les uns et mauvaises pour les autres. Non ? Je dis rien de nouveau. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, celui qui croira sera sauvé, c'est Jésus qui dit ça, mais celui qui ne croit pas sera condamné. C'est écrit. Maintenant, vous allez me dire, sachez, il s'agit du salut. Peut-être, certainement, mais je dis aussi, si tu ne crois pas aux promesses de Dieu, si tu ne vis pas fidèlement suivant la parole de Dieu, si tu n'accomplis pas ce que le Seigneur t'enseigne, et que ta foi périclite, que ta foi devienne froide, que tu rejettes le nom de Jésus, si tu ne te repens pas, tu ne seras pas sauvé. Mais c'est écrit. Non ? Ce matin, je dirais même malheur à ceux qui sont en train d'écorner la parole de Dieu. À ces religieux qui mettent en évidence tout ce qui a immoralité, qui en concluent des mariages, etc., alors qu'il est écrit que, je vais prendre le terme, excusez-moi, mais ceux qui ont des rapports contre nature, tels que le dit l'apôtre Paul, il est bien écrit qu'ils ne rentreront pas dans le ciel. Et on veut faire avaler ça aux gens aujourd'hui ? Où on va ? Et la parole de Dieu dit que ceux qui ne résistent pas à ces choses, ceux qui ne les condamnent pas, sont comme eux, et ils n'entreront pas au ciel. Il ne faut pas avoir peur de citer les textes qui sont là. C'est notre salut, l'écoute et la fidélité à la parole de Dieu. C'est notre salut, écorner la parole de Dieu. Mais alors on perd notre place dans le ciel. Comme il est écrit que les menteurs ne rentreront pas au ciel. Le chrétien a une parole de vérité. Oui ou non ? Le chrétien ne doit pas être un hypocrite. Le chrétien marche dans la vérité. Il témoigne de la vérité. Et il vit la vérité. C'est à ce prix-là, frères et sœurs. Ah, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Enfin, si quelqu'un le pense. Vivre ainsi, ça va nous mettre de côté. Vous savez, je ne dis pas ça pour me plaindre, mais je suis peiné, vraiment, que des chrétiens, peut-être vous l'ai-je déjà dit, des chrétiens, et notamment un jour dans une église, un ancien est venu me voir, mais... Pouvons-nous lui donner, ce n'est pas moi qui lui avais donné le titre d'ancien, c'était précédemment. Il est venu me trouver un jour à la fin du culte, il m'a dit « Frère Asquette ». J'ai dit « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Vous savez, vous devriez épousseter ou dépoussiérer votre Bible. » Rien de plus terrible que ça. Et comme ça ne suffisait pas, il m'a ajouté « Vous êtes un ancien de la Pentecôte. » Ah oui. Voulez-vous que je vous dise ce matin ? Je suis content. Amen. Content d'avoir connu
la vieille Pentecôte. Et ce que je connus, j'essaye, aujourd'hui, demain, de le transmettre. Mais chacun après vit sa vie. Chacun après peut mettre sa vie au modernisme. Mais le Seigneur ne cherche pas le modernisme, cherche la foi. La foi, la fidélité, l'intégrité, l'honnêteté, la vérité dans le cœur des hommes qui disent l'aimer. Nous oublions bien souvent que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et qu'un jour, permettez-moi de vous dire vous, mais je me mets moi en avant pour vous dire qu'un jour, la Bible me dit que je serai jugé aussi par mes actes et par mes paroles. Peut-être l'entrée ne me sera pas refusée, mais la place qui me sera accordée me sera donnée par rapport à mes paroles et à mes actes. Oui. C'est vrai qu'on peut toujours se consoler, comme un jour cet homme a dit, quand on parlait de rentrer dans le ciel et d'avoir sa place au ciel. Et dans une simplicité, cet homme disait ceci, quelque part il n'avait pas trop tort, mais il disait, moi, j'aimerais rentrer au ciel et je crois que je rentrerai au ciel. Et si je n'ai que la place de concierge, j'y serai quand même. L'image est belle. Elle est simple, mais elle est belle. Bon, je ne voudrais pas vous décevoir, mais je suis quand même obligé de vous dire que les 24 premières places sont déjà prises dans le ciel. Celles qui sont près de Jésus. Près du trône. Mais il en reste plein d'autres. C'est vrai que l'essentiel, c'est d'arriver au ciel. Tenez-vous prêts pour le jour où il apparaîtra. Alors là, je vais faire vite, je vais certainement vous citer quelques versets en ce qui concerne la prière. Qu'est-ce que nous pouvons trouver auprès de Dieu lorsque nous élevons une prière sincère? Vous voyez, la prière, c'est pas, comme dira le Seigneur Jésus, la prière, c'est pas une multiplication des mots. La prière, c'est celle qui s'élève des cœurs. Vous savez, une prière, elle peut être faite en trois mots des fois et trouver son exaucement parce qu'elle est simple, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est faite avec foi. Puis il y en a qui, et ce n'est pas un reproche, chacun fait comme il veut, mais il y en a qui font des prières interminables. Ça ne veut pas dire qu'en multipliant, d'ailleurs c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas en multipliant les paroles que je vais obtenir obligatoirement la bénédiction. Dieu ne compte pas les paroles, Dieu regarde à la foi. Alléluia. Hein? Alors, que peut-on alors? Je vais vous lire les versets, je ne vais pas tout vous dire parce que autrement. Mais la première des choses que je trouve quand je vais dans les instants de prière avec mon Dieu, eh bien c'est ceci. Alors, je ne fais que citer des textes bibliques, comme ça, je ne pourrais pas dire, c'est M. Asquette, vous direz, c'est la parole. Et ce sont des hommes qui ont expérimenté. Psaume 43, verset 3, français courant. Fais-moi voir la lumière, ou plutôt, fais-moi voir ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide vers la montagne qui t'est consacrée, qu'elle me conduise à ta demeure. Non. Tout est beau là, mais le final de ce verset est encore plus beau. Ah, qu'elle me conduise à ta demeure. Pas seulement celle qui nous est donnée de nous rencontrer dans ce lieu, mais celle d'arriver en sa présence, c'est-à-dire dans l'éternité. Jérémie 42, 6, toujours sur le même thème, parole de vie, je vais conduire les aveugles sur une route inconnue. Et avant, nous étions aveugles. Je vais les faire marcher sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière. Je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire, je n'abandonnerai pas ce projet. C'est pas de belles paroles ce matin, ça? Ça réchauffe notre cœur, non? J'aime lire, moi. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière, je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire. Je n'abandonnerai pas ce projet. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous aussi. Enlever les obstacles. On trouve quoi auprès de Dieu? On trouve la confiance. Ou que placer sa confiance en Dieu nous donne la victoire. Ainsi est-il écrit, psaume 73, verset 28, français courant, « Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. » Amen. Et depuis que nous sommes au Seigneur, je l'ai entendu ce matin dans quelques louanges, nous aimons repasser les bienfaits de Dieu. Cela nous aide à louer le Seigneur. Mais c'est bien de les louer, mais c'est bien de les dire aussi autour de nous. Et d'ajouter ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Alléluia. Et confiance en Dieu. Alléluia. Dans le psaume 84, verset 12-13, « Oui, le Seigneur Dieu est un soleil, il est un rocher. Le Seigneur donne l'amour et l'honneur. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite, Seigneur de l'univers. » Et la conclusion est, il est heureux celui qui a confiance en toi. Amen. Là, je prends 30 secondes pour chercher votre joie. Oh ! Êtes-vous heureux ? Frère, je ne sais pas ce que je vais dire, frère, parce que avec les impôts que j'ai à payer, la taxe foncière, elle a triplé, elle a doublé, quadruplé. Mais je vais faire comment, moi, frère? Et vous me dites d'être joyeux? Non, mais pas joyeux par rapport à ce que nous connaissons. Mais joyeux parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et que dans les moments les plus difficiles, il sera là pour nous aider. Amen. Et même si nous avons parfois des difficultés financières, ça peut arriver. Soyez heureux de manger des patates tous les jours. Parce que c'est Dieu qui vous les donne. Non? Ou du riz. Un riz rougaille saucisse. Si vous avez un bon couscous, hein? Non? Dites merci Seigneur. Ne passons pas notre temps à nous plaindre. Mais ça, passons notre temps à louer Dieu. Et si quand nous sommes dans l'affliction, ayons peut-être pas de le dire à tout le monde, mais d'aller vers quelques frères et sœurs que nous connaissons, en qui nous pouvons mettre notre confiance aussi, leur dire, voilà, je suis dans un problème. Je vous demande une seule chose, c'est de prier pour mon problème. Parce combien il est doux de savoir que des frères et sœurs pensent à vous dans la prière, pour vous aider à surmonter la difficulté. Parce que la difficulté s'arrêtera, Dieu l'a promis. Je suis avec vous tous les jours. Que trouvons-nous encore dans la prière? La force. Alléluia. La force, je dirais l'énergie pour progresser dans la foi. Amen. Éphésiens 6, 10, parole vivante. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie, votre force. Amen. Le chrétien est fort. Nous n'avons-nous pas un cantique qui dit « Je suis fort, fort » par le sang de Jésus-Christ. En relisant les textes, on ne peut pas tout lire, vous relirez la Bible. Hein. Mais quand quand le roi David parfois s'exprime, il dit « Que peuvent me faire les hommes ?» J'ai confiance en Dieu. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes ? La force est en Christ, la force est en Dieu. Et quand je vais dans la prière, quand je prends le temps de passer ces moments que j'appellerais magnifiques, c'est toujours magnifique d'être en prière, quand on ressort des instants de prière, on ressort plus fort que lorsqu'on est entré, parce que le Seigneur nous fortifie. Et alors on peut s'exprimer, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Que trouvons-nous encore? Je vais dire la consolation dans la prière auprès de Dieu. La consolation. La parole de Dieu nous rappelle et nous apprend que Dieu est celui qui sèche les larmes. Alléluia. Il sèche les larmes parce qu'il nous accorde sa paix. Je parlais d'abord de la consolation. Il dit, le psaume 119, verset 49-50, parole vivante, « Veuille te souvenir de ta parole en faveur de ton serviteur, car tu m'as donné l'espérance. Elle a été mon réconfort dans mon chagrin. Ta promesse m'a fait revivre. » Écoutez bien, je relis simplement ce bout de verset. « Ta parole a été mon réconfort dans mon chagrin. » Alléluia. Plus je prie, plus je lis, plus je suis fort, plus je suis consolé, plus je suis relevé par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Il est celui qui nous accorde sa paix aussi. Et cette paix que le Seigneur nous accorde, non seulement dans le moment de prière, mais elle subsiste toujours. La paix de Dieu subsiste toujours en nous. Ça s'appelle la paix intérieure. Vous savez, pour revenir à une petite parenthèse, aujourd'hui on entend beaucoup parler de paix entre les êtres humains, entre les nations, on essaye d'amener la paix. Mais quand même, il ne faudrait pas mettre des textes bibliques en oubli. Je me trompe? Non. Mais n'est-il pas écrit, c'est Jésus qui le dit, dans les temps de la fin, les hommes crieront paix et sécurité, et c'est là qu'une ruine soudaine s'abattra sur la terre. Et là, où seront les chrétiens? Le chrétien fervent est celui qui demeure dans la paix. Le chrétien ne doit pas être surpris. Le chrétien est prévenu. Et jamais personne chrétien arrivant dans le ciel, qui lit la parole ou qui entend la parole, mais qui ne vit pas la parole, ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Parce que Dieu marque tout. Oui, non ? Enfin, là, je simplifie un peu, mais il est bien écrit dans l'Apocalypse qu'il y a des livres qui vont être ouverts et il est ajouté « où tout est inscrit ». Ah là, j'aurais jamais dû dire ça, j'ai l'impression que je vous ai coupé l'appétit là. Tout est inscrit. Alléluia. Alors, autant que ce soit de bonnes choses qui soient inscrites. Hein? Gloire au Seigneur, tout est inscrit. Vous inquiétez pas, j'arrive à la fin, parce que si je vous lis tout, il y en a 14 points. Hein? Alors, la paix intérieure. Ésaïe 26, verset 3, se meurt à celui qui est ferme dans ses dispositions. Tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Alléluia. D'ailleurs, si on repense à la parabole du sage et de l'insensé, le sage qui bâtit sur le roc qui est la parole de Dieu, il est dans une paix parfaite parce qu'il sait que la maison qu'il a construite sur le roc, elle ne tombera jamais. Alléluia. Les bases sont inébranlables. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu sur laquelle on s'appuie, c'est la vérité. Alléluia. Dernier verset, et je conclurai par là. Eh bien, il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16, prends ses courants, que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Alléluia. Mais sans expliquer les points, je vais seulement vous les citer et vous les rechercherez vous-même dans la parole de Dieu. Dans la prière, je trouve la présence constante de mon Seigneur. Je trouve la foi, l'enrichissement de la foi. Je trouve le bonheur ineffable. Je trouve l'amitié de Dieu. Je trouve le soutien en permanence du Seigneur. J'en ai parlé un peu, mais j'ai passé. La joie. Alléluia. Je trouve l'espérance dans la prière. Et ce qui est par-dessus tout, et je ne pouvais pas ne pas le citer, je trouve l'amour. L'amour. Parce que, autant que vous le sachiez, Dieu vous aime. Il a tout fait pour nous sauver. Il a démontré, alléluia, un amour insondable. On ne peut pas sonder l'amour de Dieu. Il est haut, il est grand, il est puissant, alléluia, insondable. Mais cet amour-là de Dieu, bien sachez qu'il veut et qu'il fait que vous soyez entourés de son amour. Être blotti dans l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pas le tout de dire, permettez-moi encore ceci et je conclue, mais je voudrais dire simplement ceci parce que il faudrait pas se tromper. C'est facile de dire au Seigneur, je t'aime, avec la bouche. Mais avant de le prononcer avec la bouche, il faut le prononcer avec le cœur. Et pour que notre cœur le prononce, il faut vivre une vie intense de communion avec le Seigneur. Et de savoir lui dire au Seigneur, je t'aime, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quand tout va bien, quand tout va mal. Parce que je sais que tu as fait des promesses et que dans ton amour, tu les accompliras. Tu n'abandonnes pas ceux qui t'aiment. C'est écrit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Te disons merci, Seigneur, pour ta parole.